La religion du Christ est une religion d'espérance. Elle apporte déjà pendant cette vie une grande part de satisfaction et de récompense. Cependant, l'espérance du disciple du Christ ne se limite pas à cette vie. Elle outrepasse les frontières de ce qui nous est familier et pénètre dans un domaine invisible aux vivants. La vraie récompense d'un chrétien ne se mesure pas d'après ce qu'il a pu accumuler comme bien terrestre. C'est là un faux critère, c'est là une mesure que le souverain juge ne connaît pas. Car dans ce monde, ce sont souvent les injustes qui sont les premiers, tandis que nombreux sont les hommes droits et bons qui ne possèdent rien. Mais pour ces derniers, la rectitude, l'intégrité et le respect de la parole de Dieu constituent des outils et des armes, autant de moyens pour mieux se préparer. Car dans la Bible, le ciel est un endroit préparé pour des gens préparés. Il est écrit à plusieurs reprises que Dieu désire le salut de tous les hommes. Mais il est aussi écrit qu'aucun pécheur ne peut entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi Dieu a conçu un plan, un moyen par lequel les hommes peuvent se faire pardonner et accéder aux promesses qu'il leur fait. C'est d'ailleurs là le message de l'Évangile, dans toute sa vérité, dans toute sa rigueur et dans toute sa joie. Cependant, s'il n'y a pas de Dieu, il ne peut y avoir de telle espérance. Si notre existence n'est que l'aboutissement d'un concours de hasard et de coïncidences, sans origine intelligente et sans but défini, et si notre vie doit fatalement être engloutie dans le néant de la mort, après avoir été le jouet d'un destin aveugle, nous sommes de toutes les créatures les plus malheureuses. Il ne nous reste plus qu'à réjouir au maximum ce corps physique pendant le temps qui nous reste à vivre. Mangeons, buvons et réjouissons-nous car demain nous mourrons. Notons en passant que cette philosophie a toujours été particulièrement à l'honneur. Mais si nous croyons qu'il y a un Dieu dont la volonté dirige et contrôle, nous pouvons croire tout aussi facilement, comme allant de soi, à l'immortalité de notre âme. Sans la foi, il n'y a pas d'espérance. La Bible dit que la foi est la garantie des biens qu'on espère. Elle est la preuve des réalités qu'on ne voit pas. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Si nous croyons en l'existence d'un être souverain, qui nous a donné notre esprit comme une étincelle provenant de lui-même, et en qui nous avons la vie, le mouvement et l'être, nous pouvons aussi croire que notre esprit est appelé à retourner à sa source, après avoir séjourné quelque temps dans notre chair. Dans cette vie, notre seul refuge n'est-il pas de saisir l'espérance qui nous est proposée? Cette espérance, disent les Écritures, le chrétien la possède comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur. Dans cette étude, nous ne nous attarderons pas à définir les mots immortalité, âme, éternité. Nous nous bornerons à envisager cette espérance d'une vie future, telle que nous la pressentons au fond de nous, telle que nous la désirons, telle que les Écritures nous la présentent. Toutes les allusions à la vie infinie ne sont pas issues de l'imagination de l'homme. Elles répondent plutôt à un besoin profond de l'homme, à une véritable soif d'infini. Nous sommes constamment frustrés dans notre existence par le fait que tout ce qui est agréable est éphémère. Nos enfants grandissent trop vite. Bientôt, ils nous échappent. Bientôt, ils ne nous appartiennent plus. La jeunesse, elle aussi, passe vite. La beauté n'a qu'un temps, la vie. Qu'est-ce que votre vie ? Nous demande brutalement l'apôtre Jacques. Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Qu'est-ce que 100 ans? Qu'est-ce que 200 ans? Qu'est-ce que 1000 ans? Dans notre désir de prolonger notre vie, surtout dans les moments de bonheur, nous nous imaginons que si nous pouvions vivre en moyenne 300 ans, nous serions plus heureux, comme si cela pouvait changer quoi que ce soit à l'ordre des choses. Car à la fin de cette longue vie, il faut tôt ou tard rencontrer la mort, et que ce soit après 60 ans, 300 ans ou après 1000 ans, elle vient toujours trop tôt. Parallèlement, nous nous imaginions peut-être qu'en allant plus vite, nous pouvions gagner du temps et vivre plus heureux. Nous constatons au contraire que plus nous allons vite, plus nous sommes pressés. Nous passons notre vie à 100 à l'heure. Nous n'avons pas le temps, nous n'avons plus le temps. Nous sommes constamment sous pression. La vérité se trouve dans le fait que nous sommes des insatisfaits perpétuels. Tant que la mort subsiste, la vie, quelle que soit sa durée, sera toujours une goutte d'eau dans l'océan de l'éternité. Devant la mort, l'homme conquérant est désarmé, il est impuissant, il est malheureux. Christ seul peut défier ce spectre, lui seul s'interpose entre l'implacable réalité de la mort et l'humanité mortelle, par une déclaration qu'on a pu voir gravée sur le mur d'une chambre à gaz dans un camp d'extermination. « Je suis la résurrection et la vie. » S'il en avait eu le temps, le martyr aurait pu inscrire le reste du verset. « Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Quelque temps plus tôt, en Samarie, on l'avait entendu dire « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra une source qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Jésus nous propose cette espérance comme une expression logique de l'amour de Dieu. Dans la Bible, aucun thème n'est plus grand que celui de l'amour. Est-il illogique de penser que Dieu est toujours un Dieu d'amour et de réconciliation? Est-il raisonnable de croire qu'après avoir donné à l'homme esprit, intelligence et langage, Dieu ne lui réserve d'autre sort que celui des animaux après une vie éphémère? Le fait est que Dieu ne change pas. Tout homme qui a vécu dans le souci de le servir et de lui être agréable peut reposer en espérance, car la mort est impuissante à le retenir captif. La vie éternelle après la mort ne paraît pas absurde à qui croit en Dieu. Car si Dieu a pu nous former un corps d'une si grande et belle complexité, s'il peut orchestrer la marche des univers infiniment grands et petits, ne peut-il pas aussi nous donner une autre existence dans un cadre infini et éternel? Ou se pourrait-il que le Dieu du chrétien moderne soit trop petit, trop limité dans sa puissance pour permettre une telle espérance? Mais qui veut de ce Dieu-là? Dans la première lettre aux Corinthiens, l'apôtre Paul déclare que la résurrection du Christ d'entre les morts est une preuve et une assurance de notre résurrection. Avec la véhémence de la certitude, il s'exclame « Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun en son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps viennent-ils? L'apôtre Paul répond à cette question par une parabole étonnamment convaincante. Insensé, ce que tu sèmes ne reprend point vie s'il ne meurt, et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé peut-être, ou de quelque autre semence. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît, et à chaque semence il donne un corps qui lui est propre. Et il conclut, « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. » Si Dieu nous donne dans la nature le spectacle d'un renouveau printanier après l'engourdissement de l'hiver, n'est-il pas raisonnable de croire qu'il réserve un même destin à l'homme, le couronnement de son œuvre créatrice? Au début de notre causerie, nous avons évoqué la souffrance et l'indigence des justes, et le fait que dans notre monde, la rectitude, l'intégrité et la justice sont souvent fort mal récompensées. Ceci nous amène à considérer un dernier point dans notre étude, celui de la justice de Dieu qui exige une vie future, où toutes les scandaleuses inégalités de ce monde présent seront abolies, où toutes les injustices seront dénoncées, où toutes les indignités seront justement châtiées. Quoi? Le vice triompherait-il donc toujours de la vertu? Les bons devraient-ils donc toujours se résigner à vivre et à mourir misérablement, tandis qu'ils verraient les méchants et les jouisseurs persévérer et prospérer dans leur voie tortueuse, sans jamais payer le prix de leurs mensonges? Même notre sens humain de la justice s'insurge violemment contre une telle pensée. L'Ecclésiaste constate avec amertume qu'il y a des justes à qui il arrive ce que mérite la conduite des méchants, et des méchants à qui il arrive ce que mérite la conduite des justes. Mais il faut entendre la conclusion de ces méditations. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est le devoir de tout homme, car Dieu amène en jugement toutes les actions, tout ce qui est caché, en bien ou en mal. Dieu a donc une loi de compensation. La justice outragée doit être satisfaite. Le vice doit être châtié, la vertu récompensée. Il est faux de croire que l'homme récolte ce qu'il a semé s'il n'existe pas un temps prévu pour la moisson de la justice. car dans ce monde, cette loi ne se vérifie pas toujours. De même, s'il n'y a pas de vie future, la vie et la mort des martyrs est donc un lamentable échec, une navrante erreur, une tragique illusion. Le livre de l'Apocalypse nous fait entendre leur cri d'impatience. Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? S'il n'y a pas d'éternité avec Dieu, pourquoi? Pour qui ont-ils donné leur vie? S'il n'y a pas d'éternité avec Dieu, au nom de qui, au nom de quoi devons-nous nous imposer une discipline, des contraintes et obéir à des lois? S'il n'y a pas de vie future, quelle est la supériorité de l'homme sur l'animal qui, dans bien des cas, vit plus longtemps que lui? Car il n'existe plus alors d'autres critères que la force et la longévité, et dans ce cas, l'arbre est bien supérieur à l'homme qui l'a planté. Mais la réalité, la vérité, nous la pressentons bien. Elle s'impose à nous comme une voix obsédante au fond de notre conscience. La parole de Dieu vient ratifier ce qu'affirme silencieusement notre conscience, la logique et notre sens de la justice, à savoir que la mort n'est pas la fin de tout. Elle n'est que le commencement. Nous vivons dans ce monde comme dans un ventre maternel. Nous sommes appelés à naître à la vraie vie le jour de notre mort. Ne vous étonnez pas de cela, a dit le Christ, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Chers amis, vous êtes-vous préparés? Vous préparez-vous à remporter une victoire sur la mort avec le Christ ?